Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Le Capital de Karl Marx, aujourd'hui troisième temps, en route sur les chemins de la philosophie. Bonjour Florian Nicodème.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie au lycée Jacques Boucourt à Paris, traducteur de philosophie allemande, membre de la grande édition Marx et Engels aux éditions sociales, co-auteur avec Julia Christ d'un livre intitulé « L'injustice sociale, quelle voie pour la critique » aux éditions PUF. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, vous êtes le porte-parole de Marx, mais vous avez le droit de le critiquer, hein, évidemment. « For the love of money », chante O.J., ce que nous sommes en train d'écouter. Alors, c'est pas par amour pour l'argent que Marx a écrit le Capital, plutôt pour dénoncer l'amour suscité par l'argent, pour le dire comme ceci.
Oh, je pense, oui. C'est une idole très très pernicieuse, l'argent.
Et on va définir ensemble la différence entre l'idolâtrie, le fétichisme, cette fameuse expression du fétichisme de la marchandise. Mais avant cela, jamais peut-être un homme n'a écrit sur l'argent en manquant autant d'argent. Écoutez.
Le 13 mars 1865, mon cher Engels, tu te trompes dans tes comptes, et voici comment. Le 8 juin, tu m'as envoyé 235 livres sterling, puis 350 livres sterling au début de juillet. La date n'est pas indiquée dans la lettre où se trouvait l'argent, mais je la vois dans une lettre du 5 juillet où tu m'annonçais l'envoi. Enfin, 200 livres sterling le 9 novembre 1864. Mais tu ne m'as jamais envoyé les 40 livres sterling dont tu fais état et dont tu m'avais annoncé l'envoi éventuel dans ta lettre du 9 novembre ci-jointe. J'espère qu'après un nouvel examen de tes livres, tu verras l'erreur et que dans ce cas, tu me feras parvenir la somme par retour du courrier avant que je parte pour le continent avec ma nièce, probablement à la fin de cette semaine.
Cette lettre de Marx à Engels, qui date de 1865, est interprétée ici par Michel Bouquet. On sent un Marx très inquiet. Florian Nicodème, il faut dire que les conditions de rédaction du Capital étaient épouvantables.
Oui, effectivement, c'est une lettre terrible, hein, où on voit Marx s'abaisser à demander de l'argent à son ami Engels. Hein. Condition problématique dans une amitié pourtant indéfectible, mais qui rappelle aussi les conditions d'écriture du Capital, où Marx manque de tout, d'à peu près tout. Il est obligé d'interrompre sans cesse son grand œuvre pour céder à des publications beaucoup plus alimentaires. Et il voit, durant cette période de rédaction en Angleterre, quelques-uns de ses enfants mourir, faute d'argent pour les nourrir, faute d'argent pour les soigner. Donc effectivement, c'est pas simplement un fétiche amusant, l'argent, c'est aussi un fétiche écrasant, et on aura l'occasion de revenir sur l'objectivité de l'argent et la manière dont il conditionne les modes de vie et les modes de subjectivation des individus.
Pour mémoire, Marx naît en 1818, il meurt en 1883. Le premier livre du Capital, le seul qu'il publiera vraiment de son vivant, paraît en 1867, il y a 150 ans donc, il était alors âgé de 49 ans. Il y a consacré plus d'une quinzaine d'années. Le résultat de ces 15 années de travail, on peut le lire aujourd'hui, c'est, voilà, et ça, le but est de répondre à une question. Comment définir ce nouveau mode de production qu'est le capitalisme, qui prend la forme d'une accumulation de marchandises? Le moyen pour y parvenir, eh bien, essayer de proposer une analyse économique, philosophique et politique très précise pour essayer d'identifier l'origine du profit, ce qu'on appelle la plus-value. On a vu lundi dernier, on a essayé de voir avec Isabelle Garraud comment élucider ce mystère de la fabrique de la plus-value. Hier, en compagnie de Bruno Pinchard, on évoquait la dialectique hegelienne contre laquelle Marx va essayer de se battre, tout en s'en inspirant. Et aujourd'hui, avec vous, Florent Nicodème, eh bien, cette expression, le fétichisme de la marchandise, une expression qu'on entend souvent, alors c'est comme le Capital, on en parle souvent, mais on ne le lit jamais, parce qu'il est quand même un ouvrage difficile à lire. Cette expression, on va essayer de la définir ensemble, et surtout, est-ce qu'on la trouve dans le Capital, et si oui, où ?
Alors, l'expression fétichisme de la marchandise est en fait un composé de deux expressions. Marx utilise le concept de fétichisme à plusieurs reprises, à l'échelle de tout le Capital, tout ce qu'aurait été le Capital s'il avait été fini. Et d'un autre côté, c'est la fameuse section 4 du chapitre 1 du livre 1 du Capital qui s'intitule « Le caractère fétiche de la marchandise ». Donc d'un côté, on a le fétichisme en général qui désigne en fait une structure fondamentale, la grande découverte de Marx sur le fonctionnement de ce mode de production capitaliste récemment apparu et dont il s'agit de saisir les enjeux. C'est une structure qui définit les rapports entre deux choses. D'un côté, les déterminants réels de l'économie, qui sont pour Marx essentiellement des rapports sociaux entre individus producteurs, ce qu'on appelle les rapports de production. Et d'un autre côté, la surface, l'apparence de ces mêmes rapports de production, c'est-à-dire ce que les observateurs, les agents, les économistes même, les scientifiques qui font de l'économie, voient à la surface des choses. Et donc le fétichisme, c'est un concept forgé pour désigner le rapport qu'il y a entre ces deux choses, et que Marx décrit à partir d'une conceptualité qui lui vient de Hegel, qu'il reprend d'ailleurs dans son sens spécifiquement hegelien, c'est la conceptualité essence et apparence. L'essence, ce sont les rapports réels de production, et l'apparence, c'est la manière dont ces rapports apparaissent aux individus, sont sensibles, deviennent sensibles. Et le fétichisme décrit une chose très très simple et en même temps extrêmement complexe. On verra que Marx s'acharnait à essayer de la dire en essayant toute stratégie possible, analogie, métaphore, concept. Cette chose très simple, c'est qu'en fait, il y a un rapport de subversion entre l'essence et l'apparence. L'apparence subvertit, renverse, inverse, transforme et rend invisible les déterminants réels de l'économie. Du coup, ce qui se passe très concrètement, c'est que pour Marx, les rapports sociaux entre les individus qui travaillent, les individus au travail, les rapports de production apparaissent comme tout autre chose que ce qu'ils sont. Et cette apparence absolument nécessaire pour Marx les rend totalement invisibles.
Alors pour essayer de bien comprendre, prenons un exemple. On est parti avec la question de l'argent. Est-ce qu'on peut dire par exemple que l'argent, c'est-à-dire même concrètement le billet de banque, cache la réalité de l'économie, qu'on peut avoir un fétichisme pour l'objet du billet de banque qui, du coup, occulterait ce de quoi l'économie est vraiment faite?
Alors, effectivement, l'un des objectifs du chapitre sur le caractère fétiche de la marchandise, ça n'est pas d'élucider le caractère fétiche de la marchandise, mais d'élucider un peu en amont le caractère fétiche de l'argent, c'est-à-dire de la monnaie. Et du coup, je pense qu'il est peut-être important de passer par le caractère fétiche de la marchandise pour comprendre le caractère fétiche de l'argent. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier que Marx a en vue une idée très simple, c'est que naissent des conditions même de la production capitaliste, un certain nombre de fantasmes, ce qu'il appelle des fantasmagories, aussi bien des idées métaphysiques que religieuses, que aussi ce qu'on appellerait, à travers une conceptualité psychanalytique, des fantasmes, autour de l'appropriation de l'argent. Comment expliquer, en effet, que l'un des moteurs subjectifs du capitalisme, à savoir la thésaurisation de l'argent, soit né alors même que l'argent en lui-même n'a aucune valeur pour lui. C'est ça l'un des grands enjeux. Et pour ça, il faut passer par l'analyse du caractère fétiche de la marchandise en elle-même, et d'abord par le fait de voir derrière ce qu'on appelle la valeur d'échange d'une marchandise, c'est-à-dire ce que mesure le prix, la quantité d'une marchandise autre que cette marchandise permet d'acheter, essayer de voir derrière ça, non pas une propriété de la chose elle-même, de la marchandise elle-même, mais un rapport social chosifié. Ça, c'est le plus important, la grande découverte du caractère fétiche de la marchandise, c'est de montrer comment la marchandise est en réalité une chose sensible, suprasensible, sensible parce qu'elle est d'un côté un ensemble de propriétés matérielles, constatables, sensibles, palpables, qui définissent pour l'homme son utilisation possible, sa consommation ou son utilisation comme outil par exemple, et qui sont le résultat d'un travail lui aussi concret, sensible, palpable, consistant à donner à un matériau naturel des propriétés encore plus ou encore mieux utilisable, à la rendre assimilable. Donc ça, c'est le côté transparent, Marx dit quelque part clair comme le jour, de la marchandise. Sauf qu'à ce caractère transparent s'ajoute une deuxième détermination qui est sa valeur d'usage, dont on a l'impression, dans les rapports de production capitaliste et dans le cadre du fétichisme, qu'elle est une propriété tout aussi matérielle.
Alors, il faut
que
juste définir sur la valeur d'usage, que ce sont c'est un
bien
lexique
sûr
qui est propre à Marx et qu'il faut toujours un peu retraduire pour comprendre. Il faut distinguer valeur marchande, valeur d'usage et valeur d'échange.
Alors, la valeur de marchande. Donc, on commence par la valeur d'usage, qui est la plus simple. C'est simplement ce que peut faire un individu humain d'une marchandise dans le cadre de la satisfaction de ses besoins. Donc ça, là, il n'y a absolument aucune difficulté. Marx dit que même un économiste devrait comprendre simplement en observant la marchandise. Ensuite, il y a la valeur d'échange, qui désigne cette fois-ci cette propriété qu'ont les marchandises, ou que semblent avoir les marchandises, plutôt, d'être échangeables, soit contre d'autres marchandises dans une quantité déterminée.
Le troc.
Voilà, le troc. Soit d'une manière plus subtile, mais au fond pas tellement différente, contre une marchandise unique qui va être érigée en équivalent universel, à savoir la monnaie. Donc la monnaie, c'est d'abord l'or, marchandise sortie en quelque sorte des équivalents et du troc, et devenue équivalent universel à toutes les marchandises, ce qu'on appelle la monnaie comme unité de compte, ce qui permet de mesurer la valeur de chacune des marchandises, même si cette valeur n'est pas directement convertie en or. On peut par exemple échanger une quantité déterminée de tissu contre une quantité déterminée de papier-monnaie, et non pas d'or. Mais l'unité de valeur, elle, ce sera précisément cette marchandise qui était l'or. Donc ça, c'est la valeur d'échange. Ensuite, la valeur marchande, c'est quelque chose qui, une complexité qui se surajoute à la valeur d'échange, pardon, la valeur marchande, c'est le prix réel auquel une marchandise va être achetée sur un marché, étant entendu que ce prix pour Marx, qui est en cela l'héritier d'Adam Smith ou de Ricardo, cette valeur marchande tourne autour de la valeur d'usage. Autrement dit, il y a ce que les économistes classiques appellent le prix naturel, que Marx va appeler valeur d'échange, et puis il y a toutes les fluctuations impliquées conjoncturellement à un moment donné par la rareté d'une marchandise, par la fluctuation de la demande par exemple, et qui va faire que le prix auquel s'achète une marchandise va pouvoir fluctuer. Or, sur ce point, Marx est vraiment l'héritier de l'économie classique. Pour lui, le prix d'achat, le prix de marché ou la valeur marchande fluctue toujours autour d'un prix d'équilibre qui est plus ou moins analogue au prix naturel ou à la valeur d'échange.
Et la question même du fétichisme apparaît à ce moment-là précisément, non, à partir du moment où, au-delà de sa valeur d'usage ou de sa valeur d'échange, eh bien, doit être fixé un certain prix qui lui-même va fluctuer, donc créer cet espace dans lequel peut s'engouffrer tous les fantasmes aussi.
Effectivement, c'est-à-dire que le chapitre sur le caractère fétiche de la marchandise se situe au moment où Marx a dévoilé la réalité de la détermination de valeur des marchandises, d'où vient leur valeur, qu'est-ce qui fait ce prix naturel ou cette valeur d'échange, et au moment où précisément on va entrer dans la sphère de l'échange. Et Marx met ce chapitre à cet endroit-là parce que, en réalité, il se rend bien compte que tout ce qu'il vient de dire de la valeur d'usage et la détermination de valeur de la marchandise est contradictoire avec les intuitions les plus fondamentales des agents économiques, qui, eux, estiment que, en réalité, les marchandises sont produites et qu'elles ne trouvent leur valeur d'échange que sur le marché, c'est-à-dire dans l'échange lui-même. Alors que pour Marx, c'est exactement l'inverse. Le rapport d'échange n'est qu'un rapport second qui masque le rapport social fondamental qui détermine la valeur, à savoir les conditions réelles de la production d'une marchandise.
Voilà, ce que Marx veut dire, c'est qu'en fait, quand on a une marchandise en face de soi, encore faudrait-il... Une marchandise, c'est un objet qui a une certaine valeur.
Exactement, c'est un objet qui est échangeable contre d'autres objets.
Voilà, quand on a une marchandise face à soi, on a tendance à estimer le prix que cette marchandise peut valoir, ou bien contre quoi on pourrait l'échanger, ce qui est encore une manière d'estimer sa valeur, et on occulte complètement le travail qui a été nécessaire pour fournir cet objet, et ce travail qui n'est jamais simplement l'affaire d'un seul homme avec ses deux mains, mais qui inclut toujours ce qu'il appelle un rapport de production, des rapports sociaux, donc d'autres personnes, et tout un mécanisme à l'œuvre qui est le propre du travail et donc de l'économie.
Effectivement, ce rapport social, il est extrêmement clairement établi dans le Capital. Ça consiste essentiellement dans le fait qu'il n'existe pas, pour Marx, de travail privé. Dans aucune société, le travail n'a été privé, sauf chez Robinson, mais ça, on y reviendra. C'est précisément ce qui rend Robinson si pédagogique pour comprendre ce qui se passe dans le mode de production capitaliste. Donc, en réalité, on a l'impression d'avoir affaire à des individus privés qui produisent chacun dans leur coin, en courant le risque que le produit qu'ils fabriquent ne soit finalement pas échangeable. C'est-à-dire en courant le risque d'avoir passé leur journée à fabriquer des choses pour lesquelles il n'existe pas de demande sociale, contre lesquelles ils ne pourront rien échanger, finalement. Or, ce que dit Marx, c'est que la valeur de chaque marchandise est fixée en réalité sur le plan social, d'une manière non délibérée, non planifiée, dans le mode de production capitaliste en tout cas, mais de telle sorte qu'en réalité, sa valeur dépend du temps de travail socialement nécessaire pour le produire, c'est-à-dire des conditions techniques de la fabrication de cette marchandise, mais aussi de la quantité de cette marchandise qui correspond à un besoin social. Il existe en gros pour Marx un travail social global, ce qu'une société doit fournir comme travail pour subvenir aux besoins des individus qui la composent. Et en fonction des différentes époques, une même société va allouer une différente quantité de temps de travail social à la production de telle ou telle marchandise. Et c'est donc en fonction de cette décision dont on serait bien en peine de faire remonter, de trouver un équivalent réel. Il n'y a pas eu de grand concile où ça s'est décidé. La plupart du temps, ça se fait de manière à la fois spontanée et brutale, pour Marx. Et c'est en fonction de cette décision qu'en réalité, telle marchandise va avoir, à tel moment, une valeur plus ou moins grande. Et donc, ce sont les conditions de son échangeabilité qui sont ainsi définies, contre combien de marchandises, contre combien d'argent elle va pouvoir être définie. Et pourtant, ces conditions d'échangeabilité, ce qui sont des conditions sociales, des relations de production, sont totalement négligées. On confond la valeur d'usage avec une propriété de la marchandise elle-même, comme sa taille, sa grandeur. Pourquoi on la confond? Pour deux raisons, je pense. C'est d'abord parce qu'elle est absolument insituable. Elle semble adhérer d'elle-même à la marchandise. Et ensuite, parce qu'elle semble aussi objective que les qualités matérielles ou les propriétés matérielles d'un objet. Vous voyez, la loi, les lois physiques, par exemple, font que telle quantité de nourriture fournit telle quantité d'énergie, par exemple. Ce sont des lois de la nature contre lesquelles on ne peut rien, et quiconque voudrait changer les choses, se heurterait à un déni de la part de la nature. Et il semblerait que ce soit la même chose pour la valeur d'usage. Quiconque essaie de vendre ou d'échanger une marchandise au-dessus ou en dessous de sa valeur d'échange, va se heurter à une forme d'objectivité au fond analogue. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir vendre son produit, ou au contraire, il va faire face à une crise, il ne va pas pouvoir satisfaire toute la demande. Et donc, on a l'impression que ces propriétés sont tout aussi objectives, alors même qu'elles n'ont pas de support matériel. Mmh. Et c'est là toute la force du caractère fétiche de la marchandise, c'est qu'on a affaire avec la marchandise à un être sensible pour ses propriétés directement utiles et matérielles, et suprasensible pour ses propriétés objectives, mais qui ne sont pas matérielles, à savoir sa valeur d'échange.
Nous sommes désormais en mesure d'écouter un texte de Marx, extrait du Capital, lu par Georges Claes, puisque toutes les mises au point conceptuelles ont été effectuées grâce à vous, Florent Nicodème. Écoutez ce texte, qui est un très beau texte, pour le coup même d'un point de vue littéraire, et d'ailleurs le reste de notre discussion aura une grande portée littéraire. Vous verrez pourquoi, chers auditeurs, je ne vous dis pas tout. Voici en tout cas un extrait du caractère fétiche de la marchandise et son secret, parce qu'on peut toujours lire le Capital comme une espèce d'enquête, de roman à clé, où on va essayer de résoudre des énigmes, ça rend ça très très palpitant, qu'on trouve au chapitre 4 de la première section du premier livre du Capital de Karl Marx.
Une marchandise paraît au premier coup d'œil quelque chose de trivial et qui se comprend de soi-même. C'est au contraire une chose très complexe, pleine de subtilités métaphysiques et d'arguties théologiques. En tant que valeur d'usage, il n'y a en elle rien de mystérieux. Soit qu'elle satisfasse les besoins de l'homme par ses propriétés, soit que ses propriétés soient produites par le travail humain. Il est évident que l'activité de l'homme transforme les matières fournies par la nature d'une façon à les rendre utiles. La forme du bois, par exemple, est changée si l'on en fait une table. Néanmoins, la table reste bois, une chose ordinaire qui tombe sous les sens. Mais dès qu'elle se présente comme marchandise, c'est une toute autre affaire. À la fois saisissable et insaisissable, il ne lui suffit pas de poser les pieds sur le sol. Elle se dresse, pour ainsi dire, sur sa tête de bois en face des autres marchandises et se livre à des caprices plus bizarres que si elle se mettait à danser. Pour trouver une analogie à ce phénomène, il faut la chercher dans la région nuageuse du monde religieux. Là, les produits du cerveau humain ont l'aspect d'être indépendants, doués de corps particuliers, en communication avec les hommes et entre eux. Il en est de même des produits de la main de l'homme dans le monde marchand. C'est ce qu'on peut nommer le fétichisme attaché aux produits du travail dès qu'ils se présentent comme des marchandises.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, c'est le troisième temps de notre série sur le Capital de Karl Marx que nous lisons en votre compagnie, chers auditeurs, cette semaine. Et aujourd'hui, grâce au philosophe Florian Nicodème, nous venons d'entendre un texte interprété non par Georges Claes, qui prête sa voix à Karl Marx cette semaine, mais par Jean-Louis Jacopin, qui avait lu ce texte il y a deux années maintenant et que j'ai plaisir à vous donner à entendre. Dans ce texte, Florian Nicodème, alors au-delà de l'image géniale de cette table qui pourrait se mettre à danser, on voit comment Marx épouse complètement le point de vue qui consiste à fétichiser un objet et donc la forme de folie à laquelle ça conduit, eh bien, semble donner, là, justement, peut-être percer le secret de ce fétichisme en invoquant contre toute attente la religion. Il écrit, pour trouver une analogie à ce phénomène, donc au fétichisme de la marchandise, il faut la chercher dans la région nuageuse du monde religieux. Qu'est-ce que la religion vient faire ici ?
Alors, c'est effectivement l'une des clés possibles du secret du caractère fétiche de la marchandise. Si vous me permettez juste une petite remarque sur le texte avant, stylistique, c'est qu'on a vraiment ici un texte emblématique de l'écriture de toute cette section, dont on sait que Marx l'a remise sur le métier à de nombreuses reprises, et qui allait d'une précision parfois absolument déroutante. Et on a l'impression que Marx échoue en réalité à plusieurs reprises à cerner précisément ce secret. Il propose plusieurs analogies, la dernière c'est celle du monde religieux, mais il a d'abord utilisé l'analogie de la perception, de la manière dont le système visuel humain, les organes visuels humains transforment la réalité visuelle vue. Il passe son temps à introduire des nouveaux concepts, des nouvelles images, des nouvelles métaphores, le hiéroglyphe ou ce genre de choses qui montrent qu'il y a une prolifération stylistique et conceptuelle autour de ce phénomène. Et je trouve que c'est particulièrement important de noter, et c'est un texte qui est magnifique pour cela, qui donne envie d'être lu à haute voix, et notamment dans sa dimension poétique. Maintenant, sur cette dernière analogie, l'ultime analogie du monde religieux, je pense que ici, il faut bien voir que Marx se réfère en réalité à la définition ou à la critique de la religion proposée déjà quelques décennies auparavant par Feuerbach. Ludwig Feuerbach, dont Marx a d'abord été un fervent suiveur, un grand admirateur, admiration qui a connu des interruptions, mais qui semble ici faire retour de manière particulièrement incroyable au cœur du caractère fétiche de la marchandise et surtout pour élucider son secret. La critique de la religion par Feuerbach, c'est la critique qui sous-tend le concept même de fétichisme ici, puisque Feuerbach considère que l'homme, dans la religion, ne parle jamais en réalité d'un être qui existe, qui serait Dieu ou les dieux. Cet être est totalement inventé, mais par contre les propriétés qui lui sont attribuées, la toute-puissance, la bonté ou toutes les autres sortes de propriétés, sont des propriétés qui sont empruntées à l'essence de l'homme lui-même. En réalité, en parlant de Dieu, l'homme ne fait que parler de lui-même, mais sous l'aspect de ne pas en parler, c'est-à-dire de parler d'un autre être que de lui. Ne voyant en lui-même que ses limitations, que sa finitude, que son incapacité à être à la hauteur de ses qualités, eh bien, l'homme les attribue sous leur forme extrême, sous leur forme infinie, sous leur forme la plus haute, à un Dieu ou à plusieurs dieux. Ce faisant, il forge un dieu anthropomorphe, mais il forge aussi une manière, à condition de pouvoir décrypter ce fétichisme, de pouvoir revenir à lui-même depuis l'analyse de Dieu. Ces qualités qui sont celles de Dieu, il faut les attribuer à l'homme, non pas individuel, puisque lui est fini, mais à l'homme générique, dit Feuerbach, et Marx traduit l'homme social. L'homme et ses rapports sociaux, c'est là que gisent toutes les qualités qui sont projetées sur un être non existant, sur un fétiche, et qui lui sont projetées comme si elles lui appartenaient, sans qu'on puisse plus voir, contrairement à ce qui est le cas dans le cadre des icônes ou des idoles, sans qu'on puisse voir qu'elles représentent autre chose.
Ça, c'est très important. Si on distingue le fétichisme de l'idolâtrie, l'idolâtrie va rendre un culte à un objet ou à une figure comme représentant une autre réalité. Alors que le fétichisme, c'est rendre un culte pour l'objet lui-même.
Exactement. Les propriétés sont attribuées à l'objet lui-même, et à aucun moment ne s'introduit la conscience critique qu'elle pourrait être le signe d'autre chose.
C'est ça.
Et de fait, le fétichisme de la marchandise est complètement bouclé sur lui-même. Rien ne permet de déterminer où sont passés les rapports sociaux.
Mais ce qui est fou, Florent Nicodème, c'est que tant dans ses analyses sur le fétichisme que sur la religion, Marx semble vraiment anticiper le travail que fera ensuite Freud des années plus tard. C'est assez troublant d'y penser dans ces termes.
Effectivement, moi je vois au moins deux manières de relier les deux. D'abord, je pense qu'il y a toute une continuité d'un travail ethnographique et anthropologique, dont Freud est encore l'héritier au moment où il écrit Totem et Tabou, par exemple, où il reprend cette catégorie de fétichisme à toute une anthropologie occidentale à laquelle Marx l'avait déjà plus ou moins emprunté. Donc du coup, il y a cette continuité-là qui est assez fascinante. Mais ensuite, je pense que le grand coup de génie de Marx, et ce qui fait qu'on pénètre dans un horizon qui sera ensuite celui de Freud plus directement, c'est d'inventer, en fait, pour désigner ce que produit le caractère fétiche de la marchandise, le terme de fantasmagorie. Cette fantasmagorie, qu'est-ce que c'est ? C'est une catégorie un peu fourre-tout qui désigne plusieurs choses. D'abord, le fait que des propriétés suprasensibles paraissent appartenir à des choses sensibles. Donc il y a là une genèse de ce qu'on peut appeler la métaphysique, c'est-à-dire cette doctrine philosophique rationnelle qui s'interroge sur les propriétés immatérielles des objets ou sur les propriétés des objets immatériels. Marx nous fournit ici une clé pour voir comment naît cette métaphysique, comment on peut en arriver à croire qu'au-delà de la perception sensible que nous avons des objets, de leur utilisation réelle, au-delà de la pratique et de la perception habituelle, il y a d'autres propriétés. Ensuite, Marx nous parle de lubie théologique. Fantasmagorie encore que tout ça. C'est-à-dire que le caractère fétiche de la marchandise serait non pas un décalque de l'illusion religieuse, mais la source de l'illusion religieuse. On ne croirait qu'il y a des dieux et qu'il y a des choses à en dire que parce qu'au fond, on aurait toujours sous les yeux ce modèle du fétichisme de la marchandise. Et enfin, derrière ces deux fantasmagories bien ciblées que Marx isole, métaphysique et théologique, on a tout un espace fantasmatique qui, pour le coup, laisse la porte ouverte à la psychanalyse, à savoir tout ce que l'individu, dans le mode de production capitaliste, est capable de projeter de lui-même, de ses désirs, de ses pensées, sur un objet qui, forcément, l'accueillera bien volontiers, d'autant plus volontiers que cet objet se prête aussi à un jeu extrêmement pervers. Et là, on revient peut-être à Feuerbach, c'est que l'individu obéit à sa propre création. Le fétiche est une création artificielle, mais comme il est porteur, comme il incarne ses propriétés qui en réalité ne lui appartiennent pas, mais aux yeux de l'individu, il les incarne, l'individu va se mettre à obéir à une objectivité qu'il a lui-même créée. Donc il est un producteur qui s'oublie et il est en réalité l'esclave de sa propre création.
Mais ce qui est formidable, c'est de voir que Marx passe son temps à opposer à l'abstraction philosophique, et il parle de subtilité métaphysique et d'argutie théologique, évidemment de manière ironique, la réalité des rapports sociaux, mais qu'en fait, l'analyse qu'il propose dans le Capital montre qu'il est loin d'être réduit à ce matérialisme qui ne verrait que les rapports sociaux comme étant à l'origine de tout. C'est qu'il est tout à fait conscient des mécanismes aussi qui conduisent aux fantasmagories. Il est tout à fait capable de les penser également.
Exactement. Alors, moi, je dirais peut-être pas trop loin dans la dimension fantasmatique, hein, parce que je pense que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup Marx, mais qui l'intéresse dans un circuit bien particulier. Ouais. Parce que pour lui, ces illusions sont d'abord et avant tout les illusions avec lesquelles les agents agissent dans la sphère économique, avec lesquelles ils entrent
sur le marché.
Mais il les
prend en compte, c'est ça.
Exactement.
Je veux dire, c'est ça.
Mais le problème, c'est que ces illusions sont du coup à la fois la condition de l'échange marchand dans le monde capitaliste, et en même temps, elles sont aussi le résultat de cet échange. Autrement dit, ce sont des illusions qui se renforcent d'elles-mêmes, hein, et qui produisent des sujets plus qu'elle n'accueille au fond une subjectivité qui serait créatrice.
On va prendre un exemple, une de ces illusions qui a eu une grande postérité dans l'histoire intellectuelle chez les économistes, les philosophes et les scientifiques. C'est ce que Marx appelle une Robinsonnade, faisant référence à Robinson Crusoe qui, seul sur son île déserte, s'en serait sorti à la sueur de son front. Ricardo notamment le cite, hein, comme étant l'exemple, voilà, de l'homme à l'état nature, disons, à partir duquel on pourrait essayer de penser l'économie, de voir comment l'homme, le rapport qu'un individu entretient avec son travail. Marx dénonce ce qu'il appelle ses Robinsonnades, justement en tant qu'illusion, parce que selon lui, elles ne seraient pas du tout représentatives des conditions de travail d'un individu dans la vie réelle. Écoutons un extrait, puis vous nous direz ensuite, Florent Nicodème, ce qu'il en est.
Puisque l'économie politique aime les Robinsonnades, faisons d'abord paraître Robinson dans son île. Aussi modeste qu'il soit à l'origine, il n'en doit pas moins satisfaire des besoins divers, et pour ce faire, accomplir toute une série de travaux utiles d'espèces diverses. Faire des outils, fabriquer des meubles, domestiquer des lamas, pêcher, chasser, etc. Malgré la diversité de ses fonctions productives, il sait qu'elles ne sont toutes que diverses formes d'activité du même Robinson, qu'elles ne sont donc que diverses modalités du travail humain. C'est l'urgence des besoins elle-même qui lui impose de répartir exactement son temps entre ces diverses fonctions. L'ampleur plus ou moins grande prise par telle ou telle fonction dans l'ensemble de son activité dépend du niveau plus ou moins élevé de difficultés qu'il lui faut surmonter pour atteindre l'effet utile visé. C'est l'expérience qui lui apprend cela. Et notre Robinson, qui a sauvé du naufrage une montre, un grand livre de comptes, l'encre et la plume, a tôt fait de tenir la comptabilité de sa propre personne en bon anglais qu'il est. Son inventaire comporte un répertoire des objets d'usage qu'il possède, des diverses opérations requises pour les produire, et finalement, du temps de travail que lui coûtent en moyenne des quantités déterminées de ces différents produits. Et pourtant, toutes les déterminations habituelles de la valeur y sont contenues.
Florent Nicodème, pourquoi cette fiction qu'est Robinson Crusoe, ce que Marx appelle cette Robinsonnade, l'intéresse autant ?
Alors cet intérêt de Marx pour la Robinsonnade ne date pas du Capital. Il a consacré des pages précieuses sur les Robinsonnades dans un avant-propos jamais publié au manuscrit de 57, dit les Grundrisse, dans lequel il explique un petit peu pourquoi les Robinsonnades l'intéressent.
Mais c'est lui qui invente le terme, Robinsonnade.
Alors non, le terme est inventé par un écrivain qui s'appelle Johann Gottlieb Schnabel, qui en 1732 écrit une Robinsonnade, c'est-à-dire une fiction inspirée du Robinson Crusoe de Daniel Defoe paru en 1719. Donc 12 ans après, il y a déjà tellement d'imitateurs qu'on éprouve le besoin d'inventer le nom d'un genre pour la Robinsonnade. Et ça désigne toute forme de fiction littéraire ou théorique, et c'est surtout l'aspect théorique qui va intéresser Marx, qui reprennent en gros l'épisode central du roman de Defoe, à savoir Robinson dans son île déserte, et comment, de l'individu producteur seul, on peut déduire toutes les conditions de l'économie et reconstituer au fond l'économie marchande du mode de production capitaliste. En tout cas, c'est ce que croyaient les économistes que Marx lit. Et Marx ici sépare tout de suite deux choses de manière très claire. Il y a Robinsonnade et Robinsonnade dans l'économie politique. Il y a la bonne Robinsonnade et la mauvaise Robinsonnade, si vous me passez l'expression. La bonne Robinsonnade, c'est celle des précurseurs de l'économie politique, de ceux qui n'ont pas encore sous les yeux le mode de production capitaliste totalement achevé. Ils pensent surtout à Smith et, dans une moindre mesure, même si c'est son auteur plus fétiche, à Ricardo, qui est un peu plus tardif, qui n'ont pas sous les yeux l'idée, finalement, que dans le mode de production capitaliste, les rapports sociaux de production prennent la forme de travaux privés. C'est-à-dire que chaque travailleur passe un contrat de travail privé avec un employeur, que chacun produit dans son coin, et qu'au fond, on ne se réunit, on ne socialise qu'au moment de l'échange. Cela, ni Ricardo ni Smith ne l'avaient sous les yeux au moment où ils écrivaient leur théorie économique. Et du coup, Marx les loue d'avoir vu en Robinson, finalement, non pas un individu originaire, mais l'aboutissement du mode de production capitaliste qui allait encore venir. Donc c'est le point par lequel l'économie politique classique et scientifique, elle mord vraiment sur la réalité, elle comprend ce qui est en train de se passer. Par contre, l'erreur de Ricardo et de Smith, c'est de croire que Robinson Crusoe n'est pas l'avenir du mode de production capitaliste, c'est-à-dire notre présent, mais qu'il est le passé immémorial, naturel de la production capitaliste, à savoir que ça a commencé comme ça, et qu'au fond, c'est la manière dont les choses se passent naturellement et en tout temps, avant les complexités de l'échange.
C'est un peu une perspective rousseauiste, quoi, où l'imagine postuler l'homme à l'état de nature dans un état qui n'a jamais
Exactement.
Existé.
Exactement. D'ailleurs, Marx fait même la comparaison avec Rousseau en disant que c'est pas du tout ça dont il s'agit dans la vraie Robinsonnade, De même que c'est pas du tout des deux natures dont il s'agit en réalité dans le contrat social de c'est Rousseau. Ça. Donc ça, le parallèle est très très clair. Et ensuite, il y a la mauvaise Robinsonnade, c'est-à-dire tous les imitateurs tarte à la crème après Smith et Ricardo, de même qu'il y a eu des imitateurs tarte à la crème après Defoe, qui reprennent tout simplement la Robinsonnade sans plus voir le lien avec l'économie marchande qu'ils ont sous les yeux, qui considèrent qu'il est acté une bonne fois pour toutes que Robinson Crusoe, sous ses formes diverses, au fond, décrit la nature des choses, la nature des choses économiques. Et donc ce qui intéresse Marx dans la Robinsonnade, c'est la figure de l'individu producteur jusqu'au moment de l'échange, l'individu qui va produire suffisamment de biens jusqu'au moment où il va pouvoir échanger avec son prochain en la figure de Vendredi ou de n'importe quel autre individu qui apparaîtra dans la Robinsonnade en question. Donc ce qui est très intéressant dans cette critique de la Robinsonnade, il y a plusieurs choses. La première, c'est que ici, Marx propose aussi une critique de l'économie politique scientifique, ce qu'il appelle l'économie politique classique, ceux qui pratiquent la bonne Robinsonnade. Il leur rappelle que Robinson, sur son île, est au fond l'incarnation non pas d'un individu naturel, mais une société à lui tout seul. C'est-à-dire que il faut pas voir le corps de Robinson comme étant un corps unique, mais il faut voir le système des besoins que représente ce corps de Robinson. Robinson a faim, Robinson a soif, Robinson a besoin de se chauffer, de se protéger du soleil, de se couvrir, de prier.
Il trouve une montre, il tient le grand livre des comptes, l'encre et la plume, autant de choses qui le relient à d'autres individus.
Exactement, qui le relient en tout cas à d'autres besoins à l'intérieur de son propre corps. Et il faut bien voir que Robinson est ici une métaphore de la société tout entière. De même que la société alloue un temps de travail à la satisfaction de différents besoins, qu'il y a des unités de production qui s'occupent de la nourriture, des unités de production qui s'occupent de l'abri, de la boisson et de toutes sortes d'autres besoins plus ou moins nécessaires, et bien de même, Robinson, lui, va allouer une quantité donnée de son temps de travail à tel ou tel besoin. Et donc, ce qui intéresse Marx dans la figure de Robinson, c'est justement pas l'individu naturel et isolé, c'est la représentation de la société qu'il permet de figurer, finalement. Et ce qui est intéressant dans cette remarque de Marx, dans ce texte de Marx, c'est que tout à coup, Marx se met à jouer le Robinson de Daniel Defoe contre les Robinsons des Robinsonades, celle de l'économie politique ou celle des fictions post-Defoe finalement, puisque ici, Marx est très précis. Quand on lit le texte, toutes les activités qu'il décrit, toutes les circonstances apparemment contingentes qu'il attribue à Robinson sont bien celles du livre de 1719, la montre, les matériaux qu'il sauve du naufrage, etc., à une seule exception près, dont on peut se demander si elle est intentionnelle ou pas, c'est qu'à un moment, Marx attribue à Robinson, parmi ses activités journalières, le fait de tondre des lamas, ou d'élever des lamas, je me souviens plus, c'est élever des lamas, je pense. Or, nulle part dans le Robinson Crusoe de Defoe, il n'y a de lamas. Et ici, on peut voir, intentionnelle ou pas, une espèce de résurgence d'une lecture d'enfance très probable de Marx, d'une Robinsonade qui est de Joachim Campe, de 1779, qui s'appelle « Le Robinson des jeunes », et que Marx a très probablement lu, dans lequel l'île de Robinson est déplacée dans un endroit où il y a des lamas.
Il aurait confondu le Robinson de Defoe avec celui de
Est-ce que c'est une confusion?
Est-ce qu'on n'invente pas des lamas impunément? Enfin, je veux dire, il y a forcément.
Alors, il y a peut-être ici un clin d'œil de Marx au ridicule de la Robinsonade qui complexifie toujours plus activités de Robinson et un hommage à la densité conceptuelle et intellectuelle du Robinson de Defoe. Il y a peut-être ici quelque chose qui échappe à Marx, quelque chose qui rappelle quand même que Robinson Crusoe est un livre sans doute crucial de la littérature occidentale, mais qu'on lit toujours en deuxième. C'est-à-dire qu'on a toujours lu L'île mystérieuse de Jules Verne ou une Robinsonade quelconque avant d'avoir lu Robinson Crusoe. C'est quand même très curieux, un classique qu'on découvre toujours par sa version abrégée, par sa version adaptée, par sa version pour la jeunesse. Donc peut-être que Marx ici l'a fait intentionnellement, peut-être qu'il nous rappelle cette condition-là, mais en tous les cas, on a affaire ici quand même à l'idée que Robinson Crusoe, le Robinson Crusoe de Defoe, est le moyen pour Marx de prouver quelque chose contre l'économie politique classique, puisque Robinson Crusoe, l'extrait le montre, n'est pas un individu naturel, mais un individu qui a atterri là, issu d'un certain nombre de rapports sociaux bien déterminés. Et le roman, on a tendance à l'oublier peut-être dans une tradition de lecture qu'on pourrait faire remonter à Rousseau, possède une première partie dans laquelle Robinson Crusoe n'est pas encore sur son île déserte et une troisième partie pendant laquelle Robinson Crusoe sort de son île déserte.
Alors on va y venir parce qu'effectivement on n'en a pas fini avec Daniel Defoe aujourd'hui avec vous. Mais un point quand même pour bien comprendre le cheminement de votre pensée. Robinson, la figure, l'individu Robinson, on pourrait en faire l'équivalent de l'argent, d'une marchandise à propos de laquelle qui déclencherait un fétichisme. C'est-à-dire que l'un comme l'autre sont finalement mal compris parce qu'ils occultent une réalité qui, elle, est toujours prise dans des rapports sociaux et qui est la réalité fondamentale pour Marx.
Effectivement, on pourrait faire le parallèle ici entre le destin et le statut du texte de Defoe, donc son devenir mythique, finalement son devenir fétiche, et puis le destin de la marchandise en elle-même. Ce que Marx très concrètement et très techniquement cherche à montrer en évoquant ici Robinson Crusoe, c'est que contrairement à ce qu'on pense, la détermination de la valeur d'usage d'une marchandise ne vient pas de l'échange, mais elle vient de la quantité de temps de travail socialement nécessaire à la produire. C'est la fameuse théorie de l'objectivité de la valeur dans le Capital qu'on a évoquée tout à l'heure. Et c'est ce que Robinson montre. C'est-à-dire qu'un objet va avoir plus ou moins de valeur en fonction du temps qu'il aura passé dans sa journée de travail à le produire, des contraintes techniques de sa production qu'il aura affrontées. Et ça, Marx souligne que là, il ne peut y avoir aucun doute. Puisque contrairement au mode de production capitaliste, on voit tout de suite qu'il y a un lien entre la répartition sociale du travail, social, j'insiste sur social, et la valeur des objets produits. Alors que dans le cadre du fétichisme et du mode de production capitaliste, on a en fait une apparence qui est celle d'individus privés, produisant chacun dans leur coin, sans se coordonner à l'avance, sans avoir apparemment de rapports sociaux, et qui ne découvrent finalement le caractère social de leur marchandise qu'au moment de l'échange. Robinson montre que c'est l'inverse. La valeur d'une marchandise est issue d'une allocation différenciée du temps de travail. Au cours de la journée de travail. Simplement, ce que dit Marx, c'est que ce qui est valable d'un individu n'apparaît plus quand on pense à l'échelle de la société.
Mais jusqu'où tient la comparaison? Parce que Robinson, non seulement est seul sur son livre, il n'est pas payé pour sa journée de travail, il fait ça pour survivre, et il ne vend ni n'échange aucun de ses objets.
Et pourtant, la marchandise qu'il produit est déjà le fruit, le résultat d'une allocation différenciée de son temps de travail. Il y a déjà ici une forme de négociation avec lui-même, si vous voulez, de besoin à besoin, en disant que, exactement comme une société le fait sans forcément le décider de manière planifiée, on décide que je vais consacrer 4 heures de mon temps à me procurer de la nourriture, parce que soit c'est le plus difficile à se procurer, soit c'est parce que C'est ce que j'estime être mon besoin prioritaire et seulement une demi-heure, par exemple, à faire mes œuvres de dévotion ou à prier. Donc c'est dans cette logique-là que Marx sollicite ici Robinson, dans l'idée qu'au fond, il y a toujours cette forme de négociation qui n'est pas apparente entre les individus dans le mode de production capitaliste, qui est à peine apparente chez Robinson parce qu'on a affaire à un seul individu, mais qui devient apparente dès qu'on commence à élucider de quelle manière chaque société, à une époque donnée, finalement, choisit, fait des choix dans la répartition du temps de travail socialement nécessaire.
Mais prenons un exemple, quand Robinson va construire son bateau pour essayer de quitter l'île, indépendamment du fait qu'en plus il se trompe puisqu'il construit son bateau trop loin de la mer et qu'il ne pourra jamais le mettre à la mer, il va y passer des semaines, des mois, des années à chercher le bois, le polir, le construire. Il a en tête un seul but, quitter cette île. Il ne se dit pas forcément qu'il est en train de travailler, il ne compte pas le nombre d'heures qu'il va passer à construire ce bateau. Est-ce qu'on peut encore vraiment parler de travail là ?
Alors, il faut bien sûr distinguer le travail tel qu'on le conçoit à l'intérieur de ce qui est devenu pour nous la norme, à savoir le mode de production capitaliste, qui est un travail socialisé, qui est un travail au sens de l'emploi finalement, quelque chose qui résulte d'une demande sociale, quelque chose qui du coup donne lieu à une rémunération non pas directement à travers les produits du travail qui viennent satisfaire mes besoins, mais à travers des produits eux-mêmes échangeables, soit d'autres marchandises, soit de la monnaie par exemple. Il faut bien distinguer cette notion du travail, qui est évidemment inapplicable à Robinson, puisqu'il n'y a pas de demande sociale de son travail, et le travail comme processus général, ce que Marx appelle ailleurs un métabolisme entre l'homme et la nature, qui consiste simplement à avoir une activité de production par laquelle on transforme un matériau naturel afin de se le rendre assimilable. Et ça, évidemment, Robinson ne montre pas la première forme de travail au sens de l'emploi, ne montre pas la demande sociale du travail contre rémunération, il montre seulement la deuxième forme de travail. Mais ce qui intéresse Marx, c'est que dans la figure de Robinson, on voit bien néanmoins qu'il n'y a pas de travail sans répartition, même à l'échelle d'un seul individu, à l'échelle d'une seule journée, à l'échelle d'une seule vie passée sur une île déserte, entre les différents besoins. On ne va pas consacrer le même temps aux différents besoins. Et il faut donc concevoir ici que les heures que Robinson passe à se nourrir ou à fabriquer son bateau, il faut se les représenter à l'échelle de la société. Ce sont des unités de production différentes qui n'ont pas l'air d'être reliées, mais auxquelles sont alloués le temps de travail d'un même sujet qui n'en est pas vraiment un, à savoir la société. Donc Robinson montre l'unité structurelle de tous les besoins. Ce qu'il montre, par contre, c'est sous l'aspect d'un individu privé. Donc Marx loue la figure de Robinson en tant qu'elle montre l'unité des unités de production à l'échelle de la société, le fait que c'est au fond un seul individu, un seul sujet, la société. Et évidemment, il nous dit de prendre garde au fait de confondre Robinson avec un individu producteur.
Et il montre que chaque minute compte surtout, c'est-à-dire que chaque minute de la journée d'un homme est essentielle quelque part à sa survie et que plus la journée de travail va prendre de ce temps nécessaire pour vivre, eh bien plus l'homme sera lui-même déshumanisé.
Effectivement, on a ici la logique de la production de la plus-value ou de la sur-valeur, qui est une logique de l'exploitation du temps. C'est-à-dire on va chercher par tous les moyens à augmenter la durée de la journée de travail pendant laquelle le produit du travailleur, pour Marx, est un produit de la plus-value.
Alors on va continuer à prendre Marx au sérieux, puisqu'on n'a pas fait autre chose depuis le début de cette émission, mais même aller encore plus loin, en restant avec Robinson Crusoe, en écoutant un extrait du Vie et aventure de Robinson Crusoe, donc de Daniel Defoe. On va, derrière le mythe de Robinson Crusoe, s'intéresser à ce Robinson avant le naufrage, qui avait une existence et qui, pour Marx, est important, puisque cette existence montre que Robinson était, avant même le naufrage, un agent économique pris dans des rapports sociaux. Écoutez comment il parle de sa vie alors.
J'avais un voisin, un Portugais de Lisbonne, mais né de parents anglais. Son nom était Wells, et il se trouvait à peu près dans les mêmes circonstances que moi. Je l'appelle voisin parce que sa plantation était proche de la mienne et que nous vivions très amicalement. Mon avoir était mince aussi bien que le sien. Et pendant environ 2 années, nous ne plantâmes guère que pour notre nourriture. Toutefois, nous commencions à faire des progrès et notre terre commençait à se bonifier. Si bien que, la 3e année, nous semâmes du tabac et apprêtâmes l'un et l'autre une grande pièce de terre pour planter des cannes à sucre l'année suivante. Mais tous les deux, nous avions besoin d'aide. Alors je sentis plus que jamais combien j'avais eu tort de me séparer de mon garçon, Xuri. Souvent, je me disais, ce que je fais ici, j'aurais pu le faire tout aussi bien en Angleterre, au milieu de mes amis. Il était inutile pour cela de parcourir 2000 lieues et de venir parmi des étrangers, des sauvages, dans un désert, à une telle distance que je ne puis recevoir de nouvelles d'aucun lieu du monde où l'on a la moindre connaissance de moi. Je n'avais personne avec qui converser que de temps en temps mon voisin. Point d'autre ouvrage à faire que par le travail de mes mains. Et je me disais souvent que je vivais tout à fait comme un naufragé, jeté sur quelque île déserte et entièrement livré à lui-même.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Karl Marx et le Capital nous accompagnent cette semaine, aujourd'hui en compagnie du philosophe Florent Nicodème. Le texte que l'on vient d'entendre de Daniel Defoe, interprété par le comédien Georges Clès. Avant d'en venir au fond, c'est quand même intéressant de voir que Marx, pour élucider le mystère du fétichisme et même de la fantasmagorie liée presque à la religion, se sert de la littérature. C'est très important pour lui de recourir à la littérature.
Exactement. On peut voir dans le Capital un nombre incalculable d'emprunts à la littérature, parfois épisodiques, parfois très profondes. L'écriture, à certains passages, est empruntée parfois à Shakespeare, parfois à Don Quichotte, ici à Robinson Crusoe. Et je pense que le degré de pénétration de la littérature dans la pensée de Marx demande encore peut-être à être élucidé. Ici, je pense qu'on peut, à la lecture de ce passage, défendre la thèse d'après laquelle Robinson Crusoe n'est pas, pour Marx, une illustration de thèse qui pourrait être exprimée autrement et mieux par la philosophie, mais carrément une source de sa propre philosophie. Ici, qu'est-ce qu'on a sous les yeux avec ce texte, ou dans les oreilles plutôt ? On a le mode de production que Marx s'efforce de décrire, à savoir l'illusion même de producteurs autonomes, séparés les uns des autres, Robinson et son voisin, ici au Brésil, dans des plantations de tabac, qui produisent dans leur coin, sans se coordonner, et qui ne produisent d'abord que pour satisfaire leurs besoins. Chacun produit exactement ce qu'il faut pour survivre une année de plus, ou un cycle de production supplémentaire. Et au bout d'un moment, tout à coup, du surplus se dégage, et on entre dans l'échange. Et cette illusion que tous les économistes de l'époque ont imaginé être l'origine de l'économie, ça se serait passé comme ça au début, dans la nature, ici, Daniel Defoe nous montre très clairement que ça n'est pas naturel du tout. Robinson Crusoe est dans des rapports de production socialement et historiquement très déterminés. Il a fui l'Angleterre, il s'est livré au commerce sous différentes formes, notamment au commerce d'esclaves. C'est d'ailleurs en repartant pour une razzia pour chercher de l'aide, comme il dit dans l'extrait, qu'il va tomber sur son île déserte. Et il est dans un mode de production très bien documenté, très bien connu visiblement par Daniel Defoe, qui pourtant n'était jamais allé au Brésil, à savoir le mode de production des plantations brésiliennes de l'époque, qui représente donc, au fond, la vérité de l'île déserte. On l'entend à la fin de l'extrait. Robinson Crusoe compare sa situation à celle d'un naufragé. Il va comparer, un peu plus loin dans le roman, la réalité qu'il vivait à celle de l'île déserte, dans un jeu littéraire assez amusant, pour savoir qu'est-ce qui est l'image de quoi. Qu'est-ce qui est l'original? Qu'est-ce qui est la copie? Et je pense que Daniel Defoe était très, en tout cas très conscient dans la manière qu'il a d'écrire, du fait que l'île déserte n'était pas du tout seulement le recommencement naturel pour lequel on l'a souvent pris, mais aussi peut-être une manière de déchiffrer une nouvelle forme d'individualité, cette individualité qui était socialement déterminée dans le cadre des rapports dans lesquels on voit Robinson pris. Donc plutôt que de voir un livre centré uniquement sur son épisode central, je pense que cet extrait relu et corrigé, ou en tout cas relu, et dans lequel on souligne quelques éléments à partir des lunettes de Marx, nous montre, je pense, que dans la littérature, il y a déjà une forme de pensée critique que Robinson Crusoe, le Robinson Crusoe original de Defoe, anticipe largement la critique de la Robinsonade. Et qu'elle anticipe aussi, en partie, je pense, la critique du fétichisme.
Donc d'un côté, en fait, l'île déserte n'est pas si déserte que cela, et Robinson n'est pas vraiment seul sur son île, puisqu'il entre d'emblée dans des rapports de...
Il est une société d'un seul homme.
Voilà. Mais de l'autre, Robinson, quand il vit quand même en société, en fait, se compare à un homme sur une île déserte.
Exactement.
Donc il se sent plus seul quand il est parmi les autres que sur son île.
Effectivement, il souligne ici l'un des aspects du fétichisme de la marchandise d'après Marx, c'est que les individus perçoivent leur propre travail comme étant une activité purement privée. Et ne découvre du coup l'interaction entre les travaux, l'interaction sociale entre les travaux, qu'après la production dans l'échange. Or, il apparaît évident dans l'extrait de Robinson Crusoe qu'il s'agit de rapports sociaux de production. Robinson n'a pas atterri sur une île déserte au Brésil. Il est arrivé là suite à des échanges économiques, suite également à des opportunités et suite à une organisation de la production, notamment agricole, au Brésil à l'époque.
Mais les mécanismes qui conduisent d'un côté au fétichisme et de l'autre à la robinsonnade, qui sont les mêmes, on a essayé de les identifier aujourd'hui, ne sont pas uniquement psychologiques. Enfin, Marx parle quand même d'idéologie à cet égard.
Alors, c'est très délicat de...
Et il vous reste une minute.
Le rapport à l'idéologie, là, c'est très délicat. Puisque le concept de fétichisme, au fond, vient remplacer le concept d'idéologie, en reprendre l'essentiel, c'est-à-dire l'idée qu'il existe des idéalités, des concepts et des doctrines qui tirent leur origine de rapports sociaux, qui ont tendance à les solidifier et à les durcir, et qui en même temps ne représentent pas la réalité en elle-même. Donc clairement, le fétichisme là-dessus reprend la doctrine de l'idéologie. Simplement, ce fétichisme reprend la doctrine de l'idéologie à un autre niveau. L'idéologie, c'était au fond la question de savoir quelles étaient les doctrines prétendument universelles au nom desquelles une classe pouvait exercer la domination politique et s'emparer notamment de l'instrument de l'État, qui dit idéologie, dit forcément un peu la structure de l'État, alors que le fétichisme, lui, est beaucoup plus immanent, beaucoup plus à ras des pratiques des individus. On entre dans le fétichisme, non pas quand on veut devenir un dominant, mais simplement dès qu'on satisfait les besoins dans le cadre d'une économie marchande. C'est une idéologie, finalement, qui n'a pas besoin de dominant pour fonctionner. Et c'est tout le paradoxe de l'interprétation du caractère fétiche de la marchandise. S'agit-il d'une nouvelle forme de domination que l'on pourrait encore comprendre dans le cadre de rapports de classe? Ou bien est-ce qu'il s'agit, comme le marxisme structural l'a souvent proposé, d'une domination sans sujet, sans personne qui domine, une domination qui prend la forme d'une subjectivation des individus et pas du tout de quelque chose contre quoi on pourrait lutter?
On va rester sur ces questions. Florian Nicodème, merci beaucoup d'être venu nous parler de Karl Marx aujourd'hui. On va aussi rester sur l'île déserte. This is my island in the sun, where my fever has soared since time begun. I may sail on many seas, the shore will always be home to me. Oh, island in the sun, gave to me by my father. Allez, on va laisser les Paragons sur leur l'île au soleil, en fait, tel Robinson dont on parlait aujourd'hui, pour retrouver Géraldine Mosna-Savoie et son journal de la philo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Je vois qu'aujourd'hui vous avez retenu une bande dessinée.
Ah oui, je suis très contente parce que dans cette rentrée des romans et des essais, il ne faut pas oublier cette rentrée, celle des bandes dessinées. Et celle-ci, depuis quelques années, c'est peut-être une tendance d'ailleurs, mêle de plus en plus récits et philosophie, graphisme et concept. Alors par exemple, il y a 2 ans, on pouvait découvrir la géniale biographie de Sartre sous forme de BD par Mathilde Ramadier. Plus récemment, l'adaptation d'Ainsi par les Zarathoustra de Nietzsche, par Pierre Hébert Suffren et Jean-Louis Lebrun, ou encore le projet Philocomics qui transforme 10 philosophies du bonheur en planches dessinées. L'auteur de la bande dessinée Jacques Ferrandez nous offre pour sa part une très belle version en bande dessinée du premier homme d'Albert Camus. Il m'a raconté depuis Nice au téléphone comment il a mêlé la forme à la pensée, son geste à celui de l'écrivain philosophe.
L'idée de ce roman, c'est aussi de faire tout un travail de recherche, de quête sur l'histoire de ces gens de peu, et de proposer à travers ce roman une espèce de panorama entre le temps présent, c'est-à-dire le moment où Camus écrit ce roman à la fin des années 50, et le retour à l'enfance. Donc avec la bande dessinée, on peut justement jouer de ces temporalités, on peut jouer des ellipses, et c'est-à-dire que, vous savez, ce qu'on dit dans la bande dessinée, c'est que les espaces entre deux cases permettent au lecteur de développer son imaginaire. Et évidemment, avec le texte de Camus, il y a beaucoup de place à l'imaginaire, parce que on est beaucoup dans l'évocation d'un monde qui est le monde qui a produit ce personnage de Jacques Cornery et Albert Camus, et avec toute la galerie des personnages qui l'accompagnent et qui, eux, sont très très vivants, très concrets.
Alors, il faut aussi rappeler le contexte particulier de cette œuvre de Camus, Le Premier Homme et sa dernière œuvre. Elle a été retrouvée sous forme de manuscrit dans sa sacoche alors qu'il venait de mourir dans un accident de voiture. C'était en 1960. Et tout l'enjeu pour Jacques Ferrandez n'a donc pas seulement été d'adapter, de traduire en bande dessinée une pensée philosophique, un récit, mais aussi de tenir compte de ce qui manquait. Comment donc proposer une forme achevée de ce qui n'a pu être terminé et ne peut pas être comblé ?
Je me suis évidemment servi de l'ensemble du texte, celui qui a été retrouvé effectivement dans la sacoche au moment de l'accident, mais Camus avait aussi laissé beaucoup de notes qui lui auraient permis sans doute de nourrir aussi son roman en le développant, puisqu'on sait bien que le roman aurait été sans doute beaucoup plus volumineux que ce texte qui est parvenu jusqu'à nous. Et à travers les notes que Camus a pu laisser, c'est-à-dire où parfois il y a des bribes de phrases, des noms de personnages, des situations, c'est ça aussi qui m'a permis de nourrir parfois, alors non pas de combler les blancs, parce que j'ai dit qu'il faut surtout jamais faire ça en bande dessinée, mais en tout cas d'amener des éléments que peut-être Camus aurait utilisés, en tout cas qu'il avait consignés par écrit, au moment où le récit devient extrêmement lyrique et littéraire, c'est-à-dire avec des phrases parfois qui dépassent une page, deux pages, voire trois pages, sans point, sans ponctuation. Donc il fallait à un moment donné que je puisse mettre dans la bouche des personnages ce texte en le condensant et en le dialoguant en quelque sorte. Donc, si vous voulez, en faisant ça, je ne sais pas si j'ai achevé, j'espère en tout cas pas au sens le pire de ce terme-là, mais en tout cas, j'ai proposé une manière de donner à voir ce texte, tout en laissant cet aspect un peu en suspens, puisque c'est une recherche que Camus est en train de faire quand il écrit Le Premier Homme, mais Camus ne verra pas la fin de l'histoire, si on veut, puisque évidemment, quand il meurt en 1960, la guerre d'Algérie n'est pas terminée, donc il y a cet aspect un petit peu en suspens du récit que j'ai préféré conserver pour ne pas évidemment avoir l'outrecuidance de terminer un si beau roman et de l'achever à ma manière, entre guillemets.
Rendre vivant, visible, concret grâce à des personnages, des lieux, des paysages, un propos inachevé et surtout la pensée d'un philosophe qui préférait le silence aux mots et aux bruits vains du monde. C'est donc le sens de cette bande dessinée, au point même que la BD, qui laisse la place à l'imagination et aux images, semble la meilleure manière de découvrir ou de redécouvrir l'univers de Camus.
Moi, mon ambition, si vous voulez, ça serait que le lecteur de ma bande dessinée, qui n'a pas eu l'occasion encore de lire Le Premier Homme, puisse avoir envie de lire ce roman, pour voir effectivement de quelle manière ce roman a été, développé à travers mes images. Mais le but, encore une fois, il y a un mot que j'emploie et que Catherine Camus, avec qui je suis en relation permanente et notamment à l'occasion de ses travaux, Catherine Camus, la fille d'Albert Camus, c'est un mot qu'elle emploie beaucoup, c'est la loyauté. Et moi, j'aime bien justement, quand je travaille sur un texte, être au service de ce texte pour effectivement le rendre à ma manière, mais de la façon la plus fidèle possible.
Lisez donc cette très belle BD de Jacques Ferrandez, c'est Le Premier Homme d'après l'œuvre d'Albert Camus, paru aux éditions Gallimard, et je signale aussi l'adaptation de Jacques Ferrandez de L'Étranger et de la nouvelle L'Hôte, toujours de Camus et toujours aux éditions Gallimard.
Merci Géraldine, et je vais dans votre sens, j'ai trouvé cette BD extraordinaire et je conseille à tout le monde de la lire. C'est dit. Merci à Caroline Barcou qui a préparé cette émission, ainsi que Claire Perriman-Holt, David Pargamin, Marianne Chassor, Marie Aubert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Jean-Frédéric qui était avec nous à la prise de son aujourd'hui, Georges Kless qui lit les textes, Anthony Thomasson qui vient d'arriver. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur le capital de Karl Marx, suite et fin déjà, ironique pour un texte inachevé. Ce sera Jean Quétier qui viendra nous en parler. Le travail, c'est la santé. Enfin, il viendra parler de la journée de travail telle qu'on la trouve décrite dans le Capital de Karl Marx. D'ici là, pour écouter l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, rendez-vous sur nos comptes Twitter et Facebook également. Sur France Culture, à midi, vous retrouverez la grande table d'Olivia Gesbert. Mais tout de suite, à 11h, il est grand temps de retrouver Culture Monde, présenté par Florian Delorme.